Et à la une ce matin, joyeux Kwanzaa.
Ce 26 décembre, certaines familles afro-américaines allumeront une bougie noire au centre d'un chandelier à sept branches, le Kinara. Et comme chaque année, la Maison Blanche publiera son communiqué souhaitant un joyeux Kwanzaa à tous ceux qui prennent part à cette fête de 7 jours. Kwanzaa, Kesako, c'est à découvrir ce matin dans une double page de Libération. Aux États-Unis, où l'on ne manque jamais de glorifier un melting pot qui rarement semblait autant illusoire, après Hanouka et Noël, il y a Kwanzaa, nous explique le papier célébration militante qui raconte tout un pan des luttes civiques noires et leur récupération. Kwanzaa est né sur la côte ouest au milieu des années 60 sous l'impulsion de Moulana Karenga et ses amis, des étudiants de l'Université de Californie et militants du Black Power. Après l'assassinat de Malcolm X et les violences qui ont suivi dans le ghetto noir de Los Angeles, Karenga fonde US, l'organisation nationaliste noire et révolutionnaire, rivale du Black Panther Party. Karenga élabore alors une philosophie communautaire panafricaine qu'il appuie sur sept préceptes, au premier rang desquels l'unité du peuple noir. Fin 66, il invite ses partisans à célébrer chacun de ses commandements durant chaque jour que durera la fête de Kwanzaa qu'il souhaite imposer comme une alternative au Noël des Blancs. Il est alors interdit à cette époque de célébrer Kwanzaa et Noël en même temps. Une ligne dure et le passage en prison de Karenga qui feront tomber la fête quelque peu dans l'oubli avant de revenir à la fin des années 80. Bill Clinton sera même par la suite le premier président à célébrer un joyeux Kwanzaa à ses partisans. Aujourd'hui, Kwanzaa a perdu de sa dimension nationaliste et révolutionnaire, résume l'historien Pape Diaye dans Libération. Institutionnalisée et commerciale, elle ajoute simplement une dimension multiculturelle à la séquence composite des fêtes de fin d'année. Mais si depuis chaque année, chaque président s'est plié au vœu de Kwanzaa, on doute que Donald Trump, le prochain locataire du bureau ovale, fasse de même. Alors avant peut-être que la tradition ne se perde, joyeux Kwanzaa à tous les Afro-Américains.
À une fête de Noël sombre, en revanche, pour les chrétiens d'Orient.
Ouais, c'est-à-dire dans le Figaro, avec un chiffre qui parle de lui-même. Alors qu'il représentait 20% de la population du Moyen-Orient avant la Première Guerre mondiale, 100 ans plus tard, les chrétiens d'Orient ne sont plus que 2 ou 3%. Souvent annoncé, écrit le Figaro, la disparition de communautés entières est devenue une réalité. Pour la première fois en 2000 ans d'histoire, il n'y a plus de chrétiens à Mossoul, en Irak, chassés par le groupe État islamique. Une histoire qui se répète, rappelle le frère Najib. En 1915, explique-t-il, les autres Ottomans ont fait exactement la même chose, la violence de l'islam est récurrente et depuis quelques années, elle va crescendo. Et l'éditorialiste du Figaro de se demander, entre deux agapes, au milieu des cris des enfants et des bouchons qui sautent, aurons-nous seulement une pensée, une prière, un geste pour eux ? La prière comme voie de notre salut pour toute l'humanité, selon le cardinal Barbarin, à qui le Parisien donne la parole sur deux pages. Quand il prie, un catholique, un juif, un musulman demande la même chose, à savoir le bien suprême pour les hommes.
Les journaux, Mickaël, qui étaient partis à l'impression avant que ne tombe l'information de la nuit.
La mort d'une icône qui nous laissera un goût amer, un peu plus amer de cette année 2016, grande faucheuse dans les rangs de la culture. George Michael est mort. Est-ce que 2016 peut maintenant nous foutre la paix ? Écrit Madonna en lettres capitales sur le réseau social Instagram. Et on ne lui donnera pas forcément tort. Before You Go Go, Last Christmas pour George Michael. Les titres sont un peu faciles et téléphonés. Il a fallu faire vite, dirons-nous. Du duo de Wham à une carrière solo parsemée de tubes comme Careless Whisper et Face. Il a été l'idole des adolescents dans les années 80 avant de revenir en superstar mondial avec plus de 100 millions d'albums en presque 4 décennies. Un chanteur et compositeur dont les mélodies sucrées cachaient une vie personnelle tourmentée nous rappellent Le Monde. Un peu réducteur, sans doute, West France, de son côté, veut en tout cas voir plus en lui, plus qu'une star, en une des magazines à scandale, et propose un papier sur les 8 choses que vous ignorez peut-être à son propos, comme le fait que le duo qu'il signe en 1987 avec Aretha Franklin est le seul titre qui aura permis à la chanteuse d'atteindre le top des charts anglais. Sans doute, vous ne savez pas non plus qu'il a failli remplacer Freddie Mercury dans Queen après son décès, que son titre, Last Christmas, a été repris plus de 400 fois, quand en 1985, George Michael a été le premier artiste occidental à se produire en Chine, ou bien encore que sa musique, même aujourd'hui à la fin de 2016, est interdite sur certaines radios américaines au prétexte qu'elle ne serait pas adaptée à un public jeune. Pourquoi ? La réponse, sans doute, à chercher du côté de l'homophobie, écrit West France. George Michael, qui avait fait la une des tabloïds anglo-saxons en 98 après son arrestation pour attentat à la pudeur, une affaire de relations sexuelles dans des toilettes publiques que le chanteur révéla publiquement avec ce titre Outside. Gloire et déboire, n'est-ce pas, finalement de cela de ce bois-là que sont faites les icônes pop que l'on aime.
Merci, c'était la revue de presse signée ce matin, Mickaël Ponge.